milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiaux.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons de l'ennui au travail ou quand le bureau devient placard pour des salariés qu'on met à l'écart en espérant les pousser vers la sortie afin de ne pas avoir à les licencier. Demain sera rendu un verdict symbolique des prud'hommes de Paris pour un cas dit de « bore out » en France. Le « bore out » du mot anglais « bore » qui veut dire « ennuyé », c'est ce syndrome d'épuisement dû à l'inactivité au travail. À force de n'avoir rien à faire, de se voir délesté de toutes ses tâches, on se sent inutile, incompétent, incapable. Une souffrance souvent taboue dans des sociétés hyperactives où le travail est vu comme essentiel pour s'épanouir. Alors pourquoi cet ennui au travail semble s'être autant généralisé? Comment réagir quand on est mis au placard? Et que faire pour retrouver le goût du travail? Nous en parlons avec Christian Bourion, économiste, auteur du livre Le Burnout Syndrome, quand l'ennui au travail rend fou. Bonjour Christian Bourion.
Bonjour Charlie.
Vous êtes en duplex dans le studio France Bleu de Nancy. Avec nous également Nathalie Prussia-Collin, psychologue du travail. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Et Alexis Botaya qui a coécrit le livre « Créer le job de vos rêves » qui est un petit peu en retard à cause d'un problème de transport et qui devrait nous rejoindre. Bien sûr, on attend vos appels, vos témoignages, les voisins, les voisines, si vous vous sentez concerné, si vous avez l'impression d'avoir été vous-même mis au placard, relégué à des tâches qui ne correspondent pas à votre poste ou à votre niveau de compétence, ou si tout simplement vous vous ennuyez au bureau, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et puis vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous réagissez sur Facebook, déjà, les voisins, les voisines. Yves Aparacou au Bénin nous écrit « L'ennui au travail est considéré comme une grande souffrance et c'est une situation que l'on retrouve dans la plupart des administrations publiques où les agents ont très peu de tâches. » Eric à Douala au Cameroun nous dit, je cite « L'ennui se crée souvent quand il n'y a plus de reconnaissance des compétences et des aptitudes de l'employé. Dans ces moments-là, le courage de démissionner n'existe presque pas compte tenu de l'environnement économique et cette placardisation perd. » Dure. Brahima Burkinabé nous écrit depuis Bissau où il vit « L'ennui au travail est un réel problème social aujourd'hui, mais quelle est la raison du développement du burn-out? Est-ce parce que le personnel est suffisamment dynamique et efficace pour écouler son programme dans un délai record ou parce qu'il y a trop de temps pour peu de choses à faire? Peut-être faudrait-il réadapter les emplois du temps du personnel au volume de travail et à leur mission. » Et puis enfin, Bacher à Khartoum au Soudan lui veut positiver. Il nous écrit « Je ne connais pas cette situation car pour moi le travail chasse l'ennui. Je conseille à tous les voisins de lire Candide de Voltaire. Voltaire qui dit « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Moi, j'aime faire mon boulot en travaillant et mon travail, c'est comme un jardin qu'il faut cultiver afin d'atteindre le bonheur. » Demain, le Conseil des prud'hommes de Paris donnera son verdict dans l'affaire qui oppose l'entreprise française de luxe Interparfum et Frédéric Dénard, ancien salarié, licencié en 2014 après un arrêt maladie de plusieurs mois. Il estime avoir été placardisé, en payé à ne rien faire, et il poursuit son ancienne entreprise pour harcèlement moral et licenciement abusif. Alors ce n'est pas la première fois que l'on juge ce type de cas, mais ce qui est nouveau, c'est ce terme, le « bore out », un terme très médiatique, pour désigner donc cet épuisement professionnel par l'ennui. Alors Christian Bourion, c'est vous qui avez contribué à faire connaître ce terme et puis ce phénomène en France. Comment on peut définir ce nouveau type en fait de souffrance au travail?
C'est une souffrance au travail qui va apparaître quand vous avez deux conditions qui sont réunies. La première, comme vous l'avez dit, vous disposez d'un contrat de travail et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Mais c'est un contrat juridique. C'est le contrat psychologique qui ne suit pas. C'est-à-dire que certes, vous avez un salaire, certes, vous avez tous les avantages qui sont liés à votre salaire et à votre profession, mais au niveau psychologique, dans le cadre du contrat psychologique, vous n'avez rien à faire, ou du moins très peu d'activité, ou une situation où l'activité diminue sans arrêt. Et c'est à cet endroit-là, par le croisement des deux éléments, si vous voulez, qu'au niveau mental, il y a une détérioration qui se produit. Parce qu'il y a une réalité qui est vécue qui ne correspond pas à ce que l'on pensait, à ce que l'on aurait le droit d'espérer.
Et alors, dans votre livre, parmi les témoignages que vous avez recueillis, ce sont surtout des salariés qui ont 2 heures à peine de travail en fait, à faire dans la journée et qu'il reste du temps se tourner pouce.
Alors, vous avez 4 phases dans le burn-out. La phase 2 heures, les 2 heures de travail, c'est ce qui va déclencher la phase 3. Dans la phase 1, le salarié s'ennuie au travail. Mais il est déjà en burn-out. Hein. D'après les statistiques de la DARES, si vous voulez, donc les statistiques officielles du ministère du Travail, vous avez 43,7% des salariés qui sont dans ce cas-là. Ils passent en phase 2 quand ils commencent à réagir, quand ils commencent à essayer de mettre au point des stratégies, si vous voulez, pour essayer de trouver quelque chose à faire. Et c'est dans la phase 3 seulement que vous allez avoir une dépression qui va apparaître avec une détérioration de la santé mentale, une perte de la volonté, comme l'a dit un de vos auditeurs, et tous les éléments donc, qui vont donc avec ça. Donc exactement comme dans le burn-out. Le problème est exactement le même.
Alors ce syndrome qu'on appelle donc burn-out, cet épuisement par l'ennui, survient souvent, mais pas seulement, on le verra, après des mises au placard, donc des salariés qui sont volontairement mis à l'écart par leur direction. Je vous propose d'écouter un témoignage. Cerise Maréchaux a rencontré Nicolas, la quarantaine et l'allure fragile. Il est responsable administratif et financier dans une PME, une petite et moyenne entreprise. Pendant 10 ans, tout s'est bien passé. Et puis, il y a 2 ans, après un changement de direction et l'arrivée d'un nouveau responsable au-dessus de lui, il commence à être progressivement mis au placard.
On peut parler d'une dégradation de mes tâches. Petit à petit, en fait, il me restait plutôt les tâches subalternes. Et les tâches, entre guillemets, un peu supérieures, un peu plus intéressantes, sont passées vers la personne qui a été recrutée. Plutôt ce qui est parti sur les budgets, moi j'ai de moins en moins gardé. Par contre, effectivement, en faire l'échec, ça s'est un peu densifié, quoi. Ou par exemple, la gestion des frais professionnels des collaborateurs. Voilà, c'est moi qui me suis retrouvé avec. Ça avait moins de fonds, puis il y avait moins d'informations confidentielles, il y avait moins de choses stratégiques. Au fil du temps, j'ai commencé à recevoir moins de demandes de réunions sur la trésorerie, moins d'informations. En fait, ça peut être effectivement de la souffrance par l'ennui, en ce sens que ce que vous donne à faire n'est plus du tout motivant. Après, à partir de début 2016, c'est vraiment devenu plus frontal, parce que là, ça a carrément été une coupure d'information. Par exemple, j'avais créé un dossier sur le réseau bureautique de l'entreprise, un dossier en fait qui concernait tous les salaires. Donc ce dossier était informatique, il était limité à 2-3 personnes dans l'entreprise, dont moi, puisque je l'avais créé. Et puis, un jour, vous cliquez dessus et vous avez accès refusé. Vous sentez que quand vous posez les questions, on ne vous répond pas, que donc on vous prend pour un crétin. Après, un peu dans le même cadre d'exemple, j'avais le carnet de chèque des salaires de la société depuis 10 ans. Pareil, dans mes affaires de bureau, on me l'avait retiré sans me prévenir. Pareil, et quand je lui ai demandé, c'était plutôt des réponses un peu évasives. Non, je ne le retrouve pas, je l'ai trop bien caché. C'est peut-être la RRH, la responsable ressources humaines, qui l'a. On revient vers vous. Mais sauf que jamais personne ne revient vers vous. Du coup, vous passez au stade supérieur, vous commencez à faire des demandes par mail, quoi. Alors que vous n'avez jamais fait ça auparavant, à dire, bah tiens, voilà, je voudrais travailler ça, mais je n'ai plus accès au carnet de chèques de la société. Pareil, les mails restent sans réponse. Donc en fait, votre travail se retrouve bloqué, quoi. Paf, une espèce de mur, je ne comprends pas. C'est très dur. Personnellement, j'ai très mal vécu. C'est-à-dire qu'on se réveille en pleine nuit en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ?
Aviez-vous un sentiment de vide, de vacuité ?
C'était plutôt un fort sentiment de solitude. De solitude et vraiment de souffrance, en fait. Ouais, de souffrance, d'insécurité sur qu'est-ce qui va me tomber dessus maintenant. Je vais le matin au bureau, je ne reconnais plus mon poste ni mon travail. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas bon signe pour vous. On a envie de vous dire, dirige-toi tranquillement vers la porte de sortie.
Comment ça a affecté votre motivation ?
C'est même plus une histoire de motivation, c'est votre santé qui en prend un coup, quoi. Des gros coups de tension, vous avez le cœur qui va hyper vite, la fameuse boule au ventre, la bouche sèche tout le matin, vous avez des grosses migraines, vous avez les cervicales bloquées, vous dormez plus mal la nuit, plus d'irritabilité. J'étais souvent très abattu, fatigué. Et vous vous dites, en fait, je suis vraiment un bon à rien. Ou vous dites, après tout, si on t'a retiré un certain nombre de choses, c'est peut-être aussi que tu n'étais pas assez bon, tu ne le méritais pas. J'arrive pas à trouver le mot, mais on se rabaisse. Certains matins, l'impression qu'on ne va pas passer la matinée, des stress massifs, c'est vraiment des symptômes liés à la dépression.
Est-ce que c'est difficile d'en parler ? Avez-vous ressenti ou ressentez-vous de la honte ?
Oui, c'est vrai qu'en fait, j'en parle pas facilement. J'en parle effectivement à la famille, aux proches, enfin à mes proches. Si vous êtes invité à dîner chez des amis, vous n'allez pas en parler. Ça reste quand même relativement embarrassant. Parce que le travail, c'est important, c'est 80% de la vie, tous les jours. Un univers qui tombe un peu en ruine. surtout à l'heure actuelle. Puis en fait, vous êtes fatigué, ça a vraiment pris le dessus sur vous, que vous êtes obligé de dire « je suis obligé d'aller voir un psychothérapeute, j'ai pas le choix, il faut que je ne m'en sortirai pas tout seul ».
Témoignage signé Cerise Maréchaux. Alors Nicolas voit un psychothérapeute hein, depuis plusieurs mois pour justement reconstruire son estime de soi. Comment vous réagissez à ce témoignage, Nathalie Prussiat-Collin ?
Je pense que ce témoignage est extrêmement probant. Il est totalement mis en parallèle avec ce que je peux rencontrer moi avec des patients. Et effectivement, on a la descente, en fait, on a la dégringolade à un moment donné où une personne se voit retirer des dossiers, se voit retirer des informations et il y a une perte de sens de l'activité puisqu'il n'y a plus d'activité. Donc, on ne peut plus travailler. Donc, ça n'a plus de sens. Et puis, bien sûr, les symptômes qui commencent à arriver. Donc, on a les symptômes d'anxiété, quand il dit qu'il arrive du mal à dormir, qu'il commence à avoir des angoisses, en fait, avec des transpirations, des choses comme ça. On a vraiment des symptômes physiologiques qui se mettent en place. Et la culpabilité. Je pense que ce qui est énorme dans cette situation-là, c'est progressif. Donc, c'est une petite mort lente, en fait, où on enlève progressivement le sens de son travail.
Morlande, c'est fort hein, comme expression.
Moi, je l'emploie comme ça parce que j'ai des personnes vraiment qui atteignent des points de dépression s'ils ne décident pas, s'ils n'ont pas cette force et s'ils n'outrepassent pas la honte d'aller consulter quelqu'un pour les aider. Je pense que quand on perd le sens de quelque chose, on n'existe plus. Il y a une forme, à un moment donné, comme si la personne n'avait plus d'identité. Je pense qu'à un moment donné, ce garçon, cet homme, on lui enlève son identité au travail, en fait. Et je crois que c'est ça qui est terrible.
Alexis Botaya, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint dans le studio après de petits problèmes de transport. Comment vous réagissez à ce témoignage qu'on a entendu ?
Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste ni un psychologue sur le sujet. En revanche, pour le livre que j'ai coécrit, Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec, on a beaucoup travaillé sur cette question du sens que vous avez créé, qui est essentielle. Alors là, j'ai le sentiment qu'on est dans un cas particulier extrêmement intéressant où il a du travail, mais du travail qui est complètement dénué de sens et où en plus on lui met quand même des bâtons dans les roues parce que son travail n'aboutit à rien. Comme si finalement on le faisait tourner dans une petite roue de hamster, mais sans que ça mène nulle part. Donc cette question du sens, elle est effectivement essentielle et je trouve d'autant plus essentielle au moment où on est dans une espèce de basculement sur la question du sens au travail. Vous savez, on a l'habitude de dire « Ah, mais la question du sens au travail, c'est un luxe. Le travail, c'est un gagne-pain. Pourquoi tu te plains ? T'as un gagne-pain, t'as un CDI. Prends-le comme un gagne-pain qui te permet de payer des vacances, qui te permet de
d'où la honte, d'ailleurs, de reconnaître qu'on s'ennuie au travail.
D'en parler, tout simplement. Mais on est dans un basculement aujourd'hui où le travail n'est plus un gagne-pain uniquement. Donc il le dit, hein, ça occupe 80% de la vie et c'est une réalité. 80% de son temps, on le passe au travail. Donc il est important de donner du sens à ce travail. Il est dans une situation, dans un piège assez complexe.
Et on ne peut pas
là
sortir de ce sens. Et il y a un double effet, parce qu'à la fois il y a une perte de sens et à la fois il y a une perte identitaire. Parce que le sens crée de l'identité, on est quelqu'un, et en même temps, on lui enlève petit à petit et on ne lui parle plus. C'est-à-dire qu'il y a une perte identitaire, dans la perte de sens au travail,
ouais,
à un moment donné,
on
ne lui parle plus. Il envoie des mails, on ne lui répond plus, donc il n'existe plus. Et je pense qu'on est sur un double effet parallèle qui est extrêmement dangereux pour l'équilibre d'une personne.
Alors, il y a une question qui se pose quand même, Christian Bourion, c'est pourquoi c'est mis au placard ? Est-ce que licencier coûte trop cher en indemnité à l'entreprise ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ?
Alors, je voudrais d'abord ajouter un point par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est l'ignorance.
Oui,
ce que j'ai constaté après la publication de mon bouquin, c'est que j'ai reçu plein de courriels du type « Merci, je comprends enfin ce qui m'est arrivé ». Parce que le phénomène est complètement insidieux et on ne peut pas le nommer. Et tant qu'on ne peut pas le nommer, il va produire une véritable détérioration mentale et psychique de l'individu. Et au moment où la personne arrive à le nommer, il se dit « Bon, ben d'accord, c'est ça, je comprends, c'est clair, c'est précis, voilà ». Donc ça, c'est un point que je voudrais ajouter parce que c'est vraiment très, très important, en tout cas pour les solutions. Alors maintenant, votre question, c'était sur les causes.
Oui, pourquoi est-ce qu'on met au placard des salariés
Alors, bon, y a plusieurs cas. Hein. Au départ, si vous voulez, tout à fait au départ, quand vers 2008, quand les premiers bouquins sont sortis sur le placard, c'était une punition. C'était uniquement dans l'administration, l'administration ayant une particularité où on ne peut pas licencier un agent qui est titulaire.
Oui, c'est très connu dans la fonction publique,
voilà,
d'ailleurs.
C'était une punition. Mais maintenant, on a complètement explosé ce cadre. C'est-à-dire que vous avez une détérioration économique qui va apparaître, par exemple une baisse d'activité, la perte d'un client, quelque chose comme ça. On va réagir par des micro-réorganisations ou des grosses réorganisations. La Cour des comptes a relevé tout à fait récemment dans un de ses rapports une centaine de personnes dans un musée qui sont restées 10 ans sans travailler, le temps que le musée passe de Paris à, je crois, sur la Côte d'Azur.
Oui,
il y a eu des cas de ce genre. C'est ça, il y a eu des cas de ce genre. Mais c'est... Alors, il y a une réorganisation qui se produit, et dans le cadre de cette réorganisation qui nomme plus ou moins les choses, parce que les gens qui les vivent aussi ne savent pas trop ce que c'est la première fois que ça leur arrive, bah, il y a des gens qui se retrouvent sans activité, hein, sans mission, et voire des cadres de très très haut niveau, hein, et des centaines parfois, quand ce sont des grandes organisations.
Alors, et cela peut arriver...
C'est pas vraiment un acte volontaire, c'est un acte économique au départ. Et après, évidemment, il y a des choix.
Alors, nous allons accueillir une auditrice, hein, Tatiana. Bonjour Tatiana, bienvenue.
Bonjour Charlie, merci. Bonjour à tous vos invités et à tous les voisins et les voisines.
Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. Et alors vous avez dû subir une mise au placard. Racontez-nous.
Bah, écoutez, en 2005, j'ai commencé à travailler pour une société internationale. Je n'avais pas forcément les qualifications ni l'expérience qu'il fallait pour ce poste-là. Donc, c'était un grand challenge pour moi au départ. J'avais 3 mois pour faire mes preuves. Et je les ai faites puisque pendant 4 ans, j'ai été l'incontournable et... celle qui résolvait tous les problèmes dans mon service.
Vous étiez responsable de transit aérien, c'est bien ça?
C'est ça, j'étais responsable adjointe de transit aérien. Et normalement, après 2 ans à ce poste, il y avait une option de gabonisation de poste pour le poste de chef d'agence.
Donc vous avez changé de poste?
Non, je n'ai pas changé de poste, j'ai été adjointe pendant 4 ans. Et tout se passait très bien, j'ai eu des gratifications, j'ai évolué salarialement, j'avais beaucoup de responsabilités, pas beaucoup de temps pour ma famille, je passais beaucoup de temps au travail, il m'arrivait de travailler de nuit également. Mm-hmm. Et ça a été comme ça pendant 4 ans, et ça se passait très bien. Voilà, et après au bout de 4 ans, j'ai relancé pour le poste, puisqu'on parlait de changement de chef d'agence, et puis... finalement, on m'a proposé un autre poste qui paraissait plus intéressant. Mmh. Et donc, on m'a changé de service. Et, donc, c'était 4 ans après, donc en 2009-2010. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que le poste qu'on me proposait n'était pas au-dessus et n'avait pas les mêmes responsabilités que celui que j'occupais avant. Mmh. Et j'en ai discuté avec la direction. Ensuite, on m'a encore changé de poste 6 mois plus tard en me disant que j'allais devenir responsable commercial. Donc, c'était toujours la même chose. En fait, on change de poste, mais on n'évolue pas dans la société. Mm. Et à partir de là, j'ai recommencé à poser des questions. Donc, surtout que le poste où on m'avait mis, je n'avais pas beaucoup de travail. J'avais des dossiers à traiter sur ordinateur, alors qu'en général, j'étais sur le terrain. Et donc, j'ai commencé à me plaindre.
Vous vous ennuyez un petit peu, en fait, là, au travail,
Je m'ennuyais énormément. Et surtout que ce qu'on m'avait proposé sur la fiche d'emploi ne correspondait pas avec ce que je faisais au quotidien. Mmh. Donc, j'étais censée sortir, voir des clients, m'occuper d'un certain nombre de gros clients. Et en fait, je me retrouvais à faire des cotations sur ordinateur au bureau. Et les cotations, on les attend. Elles doivent arriver. Pour les traiter. Mmh.
Alors, vous restez avec nous, Tatiana. On vous garde en ligne. Hein. On se retrouve après le flash. Vous restez avec nous aussi, Christian Bourion, Nathalie Pruchia-Collin, Alexis Botaya. Après le flash, nous poursuivrons le débat sur comment se sortir de ces situations de placard. Et puis aussi, l'ennui ne pourrait-il pas avoir un impact positif sur nous et notre travail? On attend vos témoignages, les voisins, les voisines. Si vous vous ennuyez au bureau ou si vous avez des questions, tout simplement pour nos invités, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite dans 3 minutes.
Ça va,
ça va,
ça va.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On connaissait le burn-out, ce surmenage qui peut toucher les salariés à qui on en demande trop, trop de travail, trop de performance. Aujourd'hui, il y a aussi le bore-out. Bore, mot qui signifie ennui en anglais, des crises d'ennui forcées parce qu'on ne nous donne plus rien à faire et qui serait devenu le nouveau fléau au travail. Alors comment réagir quand on est mis au placard ou quand on ne trouve plus aucun sens dans sa vie professionnelle? Doit-on réapprendre à être heureux au travail? Et puis l'ennui ne pourrait-il pas être aussi une source d'inspiration? Voyage donc au bout de l'ennui avec vous, Nathalie Prussia-Collin, psychologue du travail, Christian Bourion, auteur du livre Le Bore-out Syndrome, paru chez Albin Michel, et Alexis Botaya, co-auteur d'un livre qui se veut mode d'emploi, Créer le job de vos rêves aux éditions de La Martinière. Alors, on est toujours en ligne avec Tatiana, qui est à Libreville, au Gabon. Alors, Tatiana, vous nous racontiez avant le flash que vous étiez, voilà, vous aviez été baladée de poste en poste, vous demandez des explications et personne ne vous en donne.
Non, personne ne m'en donne. Je n'ai pas de défi à traiter. Je m'ennuie, donc je pose des questions. Mais j'en ai pas. On me dit qu'on va arriver. Quand j'en parle aux collègues, on me dit que je devrais être puissante d'avoir un salaire et de ne voir rien à faire. Et donc, ça dure 2 ans seulement.
Et alors, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites?
Bah, au bout de 2 ans, je me suis mariée et j'ai demandé à prendre mes congés, mais je ne voulais pas les prendre complètement. On voulait aller en lune de miel et ça a commencé en me disant que soit je les prenais tous, soit je ne prenais aucun. Mm-hmm. Ensuite, je suis allée en vacances, je suis revenue et là, mon patron me dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je ne comprends pas trop. Je lui pose des questions, il ne m'en donne pas. Ensuite, on était dans un bureau avec des portes de communication, la porte a été verrouillée sans qu'on nous donne d'explication. À une réunion à laquelle j'assistais, on a demandé à mes collègues de ne plus nous donner de dossier à traiter.
Donc, vous n'aviez plus de dossier à traiter à ce moment-là, sans comprendre pourquoi. Non. Ouais, c'est ce qui arrive souvent quand on est mis au placard, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais.
Voilà, et sans qu'on m'explique non plus pourquoi. Et donc, j'ai demandé, on m'a dit d'attendre que je recevrai mes mots signifiant mes nouvelles tâches. Au bout de 2 semaines, j'ai refait un mail en mettant en copie de la direction générale. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Après, j'ai demandé à rencontrer la DRH qui n'a pas voulu me recevoir. J'ai demandé à être reçue par le DGA avec qui j'avais de très bons rapports qui n'a pas voulu me recevoir. Mon responsable direct non plus. Mm-hmm.
Et donc, vous en venez à être en relation avec un avocat.
Voilà, mais avant ça, il fallait que je sois à l'heure le matin. On surveillait mes heures d'arrivée, on surveillait mes heures de départ. Mmh. En 6 ans, sans problème, j'ai commencé à avoir des demandes d'explication qui n'avaient pas de sens et j'y répondais. Et finalement, je suis allée demander conseil à une avocate.
Et finalement, vous ne travaillez plus pour l'entreprise, vous avez réussi à négocier votre départ, c'est ça?
En fait, à partir du moment où je suis allée voir l'avocate, qui m'a conseillé de faire un courrier en relatant tout ce qui s'était passé pendant toutes ces années. À partir de là, tout le monde a voulu me voir, la DRH, le DGA, le DG.
Vous étiez devenue menaçante.
Voilà, mais dans un premier temps, le DG, la DRH, c'était pour me demander pourquoi je démissionnais pas si je me sentais si mal à mon poste. Et mon but n'était pas de démissionner. J'aimais bien travailler dans cette entreprise, c'était de les faire réagir. J'arrivais pendant 2 ans vraiment très mal le matin au travail. J'étais pas bien toute la journée. J'ai commencé à avoir pas mal d'arrêts maladie. Les médecins ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Des baisses de tension, de l'anémie.
Des symptômes malade, qui montraient que vous n'étiez pas bien au travail.
Voilà, vraiment pas bien. Et au bout d'une semaine, en fait, après ma visite chez l'avocat, tout s'est passé très, très vite. Et ils m'ont proposé un départ négocié. Voilà, avec un contrat à la fin, je devais faire aucune poursuite.
Oui, vous avez, j'imagine, eu un chèque en échange pour ne pas faire de poursuite.
Voilà. Alors, voilà, mais en fait, je suis restée après. Parce que, j'ai du mal à sortir de chez moi, depuis 4 ans, mais je n'ai pas réussi à avoir une vie normale. J'ai fait toute activité. Je ne sors plus, je ne vais plus. J'ai plus d'amis. Je me suis vraiment sentie très mal, vraiment.
Ça a eu des conséquences sur votre morale, sur votre vie personnelle. Alors, mais...
Il faut même plus de travailler aujourd'hui, pour l'instant.
Et vous ne travaillez plus aujourd'hui, hein, c'est ça ?
Non, je ne travaille plus.
Ouais. Alors, merci pour votre témoignage, Tatiana. Comment vous voulez réagir, Nathalie Prussiacolin ?
Alors, j'entends pas mal de choses dans ce qui a été dit et j'aimerais rebondir sur quelque chose quand c'est possible en cours, je dirais, de cette situation. Il y a des personnes comme Tatiana qui se sont rendues compte que progressivement, on lui a enlevé les tâches. Elle a eu un réflexe excellent qui était de demander une rencontre avec l'ARH. C'est une obligation. L'ARH doit recevoir un salarié. Mmh. Donc, dès lors où l'ARH ne le fait pas, il y a déjà un gros souci. À partir de là, il est nécessaire de notifier, elle a envoyé un courrier après, mais il est nécessaire de notifier par mail. Aujourd'hui, on a ce moyen merveilleux de pouvoir envoyer des mails en interne et de signifier à ses supérieurs hiérarchiques N plus 1, N plus 2 et l'ARH. Et potentiellement, quand il y a, je dirais, des conseillers syndicaux dans l'entreprise, de toute façon, de se rapprocher d'eux pour pouvoir être accompagné et demander un rendez-vous. Ça, si on a encore cette force, avant même que les symptômes s'aggravent on a les symptômes d'anxiété, on a les symptômes aujourd'hui où il y a totalement un problème d'estime d'elle-même, donc un manque de confiance et à ne plus vouloir sortir, à plus voir de personnes, à s'isoler. Si on peut, avant d'en arriver là, commencer à notifier ce qui se passe par mail, en général, la direction réagit. Parce que un mail qui signifie une situation en cours et qui la notifie, c'est une prise de conscience. Et là, ça, normalement, ça peut s'arrêter. Voilà, il peut y avoir soit on trouve une négociation et il y a un départ. C'est très difficile pour un salarié qui a déjà subi cette mise au placard de rester dans l'entreprise. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des recours en cours de cette situation.
Oui, pour mieux négocier
pour
son
mieux
départ.
Pour mieux négocier son départ, ou en tout cas pour restaurer sa place aussi, dire mais moi je me bats, je ne me laisse pas faire.
Pour partir dignement.
Pour partir, voilà.
Alexis Botaya, pour vous, quand on a été mis au placard, la seule issue c'est de quitter le navire en fait ?
Ah non, 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 pas du tout. Ce qui est très difficile dans une mise au placard, en fait j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure et Tatiana, à l'entendre, appartient à un cas de figure particulier qui est qu'elle aime son travail.
Oui.
Mais qu'elle ne peut pas l'exercer et qu'on la pousse vers la sortie de manière assez indélicate. Mais il y a aussi des cas de figure où on n'aime plus tout simplement son travail parce qu'on est placardisé, qu'on vous donne des tâches, comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure, qui n'ont plus aucun sens. Dans ce cas précis, il y a évidemment une perte de contrôle sur sa trajectoire professionnelle. On n'est plus décisionnaire de ce qu'on doit faire. On vous donne des tâches qui sont ingrates, voire insignifiantes, qui n'ont aucun sens. Il y a un acte de résistance possible à ça qui n'est pas de claquer la porte, qui est justement de créer le job de son rêve. Je veux dire, on a du temps. On peut en profiter pour créer quelque chose éventuellement à côté quand les conditions évidemment le permettent. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les jobs. Mais moi, j'ai l'exemple très précis que je connais pas trop mal, qui est le cas d'un fonctionnaire international qui a été d'une certaine manière placardisé. C'est un fonctionnaire, donc il est tenu à des horaires, à une obligation de présence et en même temps, il est fonctionnaire. Donc, comme vous l'avez dit, on ne peut pas le sortir de cette façon si aisément. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre ? Il est quand même au boulot sans tâche à accomplir hein, tous les jours. Il écrit un roman.
Ah, il écrit un roman.
Il utilise le temps disponible avec la ressource qui est quand même mise en face, qui est le salaire, pour créer ce qu'il a toujours rêvé de faire. Donc il y a deux solutions. Effectivement, on peut, si on aime son travail, décider de se battre. Et ça en vaut certainement la peine dans de nombreux cas. Et on peut décider aussi dans des cas qui ne sont pas baisser les bras, mais où on sent bien qu'on est dans une situation de blocage, d'en profiter pour créer le job de ses rêves et peut-être la vie qui va avec derrière. C'est le sens du livre qu'on a écrit.
Alors ça, c'est, je dirais quelque part, c'est la situation idyllique.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, la personne est fonctionnaire, donc il n'a pas peur non plus, enfin, de perdre son travail. Et puis, je pense qu'on est avec une personne qu'on va sans doute appeler une bonne résiliente et une personne qui a des bonnes ressources et qui est capable de transformer une situation pour en faire quelque chose.
Il faut avoir l'énergie pour faire ça.
C'est très rare, c'est exceptionnel. La résilience, c'est quelque chose qui arrive à certaines personnes qui sont rares. Ce serait génial. L'intermédiaire, c'est ce que je proposais tout à l'heure, c'est de rester dans l'entreprise en commençant à écrire des mails et en signifiant avant que ça aille trop loin la situation. Voilà. Vous, cas idyllique, c'est évident. Et puis, bien sûr, si on ne peut pas faire autrement, il faut quitter son travail, mais dignement et dans une certaine propension. Et peut-être envisager de faire une nouvelle formation professionnelle, enfin de faire quelque chose et de rebondir, et de ne pas s'isoler comme l'a fait Tatiana, qui d'un seul coup est partie dans une situation avec une perte importante d'estime d'elle-même et de confiance en elle.
Il y a deux types aussi, on peut dire, d'ennui. Il y a ces mises au au placard. Et puis, ce travail qui peut nous ennuyer parce qu'on s'en est lassé, oui, ou parce qu'on a changé de poste. Ou, alors, et vous, vous avez vécu d'ailleurs l'ennui au travail, Alexis Botaya.
Oui, moi, j'ai vécu ça de façon assez sensible à un moment donné et de façon récurrente, puisque à chaque fois que je m'ennuyais, on me poussait un peu vers la sortie, comme ça s'est passé pour Tatiana. Et du coup, ça s'est répété trois fois, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, bon, quand même, je vais y arriver. Et à chaque fois, je n'y arrivais pas. Au bout d'un moment, j'ai quand même fini par comprendre que ce job n'était pas fait pour moi. Et du coup, j'ai fait autre chose derrière. Mais, la création de la boîte que j'ai pu faire derrière...
Parce que vous avez créé une plateforme d'innovation collaborative.
C'est ça, qui s'appelle Sunsunsun, qui est une start-up, hein, tout simplement, qui fonctionne bien aujourd'hui, qui a 4 ans et demi. Et tout le fruit de cette expérience, on l'a mis dans le livre. Donc, vous avez raison, c'est une situation idéale de résilience. Mais je dirais que la résilience, c'est quelque chose qui peut être aidé. On n'est pas résilient ou on l'est pas. Et c'est justement tout l'objet du livre, c'est de donner des instruments de résilience en déplaçant le curseur. Vous savez, c'est comme à la boxe, on vous dit si vous restez en face de l'adversaire, vous prenez les coups, vous vous décalez pour faire autre chose et les éviter, tout simplement.
Oui, c'est vrai qu'être accompagné par un thérapeute, évidemment, ou par quelqu'un, enfin, mettre en place tout un staff, le médecin du travail, psychologue, et travailler avec des personnes autour pour donner... Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de redonner un nouveau sens à son travail.
Et une perspective.
Voilà. Il y a une perte de sens sur ce qu'on fait, mais pourquoi cette perte de sens n'aurait pas un sens? Donc un autre sens,
la perspective... Quelque chose,
oui, bien sûr, Christian Bourion, oui, on vous écoute.
Alors, il y a effectivement un impact positif là, qui est le suivant. C'est que quand la personne va faire une dépression, elle va désapprendre le travail. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas de tout le monde. Mais si elle désapprend le travail, elle va apprendre à être bien dans une situation où elle ne fait rien.
Ouais.
Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extrêmement paradoxal, donc, qui complète tout ce qui a été dit, mais qui est dans un champ complètement différent. C'est qu'elle va rentrer dans une activité, dans un travail où elle n'a rien à faire, et elle va s'y trouver très bien. Et si vous lui amenez trois dossiers d'un coup, ben, elle va considérer que vous la harcelez.
Oui, c'est vrai.
Alors, à vous de réagir, hein, les voisins, très les juste. Voisines, au 0033 1 84 22 71 71. On attend vos appels. À tout de suite.
Je ne sais même pas par où commencer, en fait. En même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair, quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour, ni de rien d'autre d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école, j'étais bon élève, à la maison, j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre, j'ai fait des études correctes et aujourd'hui, je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagneul anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas. Faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y, du coup on monte, t'as raison. De toute façon, t'auras beau être le premier arrivé, à la clé on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis les pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client il rack 300€ l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. Ah oui, vous avez parfaitement raison, oui. C'est de ma faute, oui. Pas assez réactif. Ah, c'est drôle, oui. Collez-moi des gifles.
Alors, c'était le groupe français Fauve avec la chanson Sainte-Anne, chanson qui, vous l'aurez peut-être compris, parle de l'ennui au travail. Ça vous a fait sourire. D'ailleurs, le groupe raconte avoir été assailli de messages de jeunes qui disaient se reconnaître dans les paroles, qui eux aussi donc s'ennuyaient au travail. Alors, tout de suite, nous allons accueillir un autre auditeur, Fataou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes à Parakou, au Bénin. Bienvenue. Alors, on vous écoute.
Ok, merci. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans pour une entreprise transformatrice de coton. Au départ, j'étais un simple exécutant. Cela m'occupait énormément le temps, jusqu'au point où j'avais presque pas de temps de repos. Mais 2 ans après, j'avais été promu à un poste de responsabilité plus élevé avec moins de tâches à exécuter et évidemment plus de temps de repos.
Mmh.
Du coup, oui, j'avais commencé par être ennuyé en ce poste car j'étais habitué à travailler beaucoup plus que ça.
Ouais.
Je ne pouvais non plus faire, oui, je ne pouvais pas le faire savoir à mon chef de perdre mon emploi, bien sûr, et de vivre au chômage comme beaucoup d'autres jeunes.
Mais vous aviez peur de perdre votre travail.
Oui, donc il fallait faire cela. Et à cela, moi, j'ajoute le fait que mon chef était quelqu'un qui pratiquement a tous les droits. Et comme celui, par exemple, de vous envoyer balader, comme bien sûr, comme aussi de vous briser. Il m'était donc difficile, comme vous le voyez, de protester contre cette dictature. Parce que moi, je suis juste là comme une dictature.
Donc, vous ne disiez rien parce que c'était difficile à assumer qu'on s'ennuie au travail, surtout dans un contexte où on a beaucoup de chômage. Alors, comment vous avez réagi, finalement?
Voilà.
Vous êtes parti.
Je le dis, voilà, cette violence, cette appréhension, cette négation de l'autre que j'ai vécue m'a, à un certain moment, conduit à ne même pas pouvoir supporter ce que j'endurais dans l'entreprise. Ce qui m'a finalement poussé à chercher mieux ailleurs. Et puis, j'ai démissionné un jour.
Vous êtes parti parce que vous vous ennuyez trop après plusieurs années dans cette entreprise. Merci Fataou pour votre témoignage. Alors, il y a une chose, hein, Christian Bourion, qui est intéressante dans ce témoignage, c'est la honte notamment, le fait d'avoir du mal à dire qu'on s'ennuie au travail. Alors, le burn-out est-il un souci de privilégiés qui ont du travail à l'époque du chômage de masse ?
Non, il y a bien un phénomène de honte, c'est-à-dire qu'il y a volontairement ou involontairement, si vous voulez, une tentative de culpabilisation. L'organisation tente de culpabiliser le salarié parce que si ça marche, il démissionne et le problème est résolu. Et dans la mesure où il n'a pas conscience du problème, elle va utiliser cette culpabilité, cette honte. Mais cette honte, il peut la vivre aussi en dehors de l'entreprise. S'il parle de ça dans son entreprise, s'il parle de ça dans un repas, moi j'ai fait l'expérience. Hein, j'ai demandé à un comparse de parler. Je gagne 2500 euros par mois, je n'ai strictement rien à faire et en plus je suis malheureux. Mais il a failli se faire haïr. Ça crée un silence total. Non, il y a un phénomène de ce type. Il ne l'aura plus maintenant parce que les médias ont mis en avant ce phénomène. Donc ça ne se produira plus maintenant.
Il y a alors aussi ce qu'on peut appeler ces bullshit jobs. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une expression qui nous vient d'un anthropologue américain, David Graeber. Et en fait, ça désigne ces métiers creux qui sont impossibles à définir peut-être en moins de 5 minutes, voire plus, qui consistent finalement en très peu de tâches concrètes. Alors parmi eux, on a le métier de consultant, Alexis Botaillac, vous avez donc exercé. Comment expliquer qu'on ait autant de bullshit jobs?
Alors, je suis incapable d'expliquer le nombre de bullshit jobs. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant. J'ai le sentiment que plus la taille des organisations augmente, plus la complexité augmente, plus il y a des chances que le jargon se complexifie et que du coup, les jobs deviennent opaques. Et puis, plus les organisations sont complexes, plus on est déconnecté de la réalité du terrain, plus on est déconnecté de la réalité du fruit de ses actions. Et effectivement, moi j'ai été consultant, c'est l'expérience que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Quand j'ai été consultant et que j'essayais d'expliquer ce que je faisais à des amis, ils étaient totalement incapables de comprendre. Et je les comprends parce qu'aujourd'hui, quand un consultant essaie de m'expliquer ce qu'il fait, je ne comprends toujours pas. Donc il y a aussi une forme d'opacité volontaire dans l'organisation de ce genre de travail qui sont là pour aussi légitimer des expertises un certain nombre de fois, mais qui sont des jobs souvent déconnecté d'une réalité concrète. Et c'est pas bullshit, c'est pas du tout, je trouve que le mot convient assez peu, c'est plus des boulots abstraits, d'une certaine manière.
Oui, abstrait, oui, c'est ça qui est derrière.
Ils ont bien sûr un effet, sauf qu'il n'est pas mesurable, il n'est pas ressenti de la part de l'opérateur ou de la personne qui travaille dans ce genre de job.
D'où peut-être la perte de sens aussi qu'on peut ressentir quand on fait ces métiers-là.
Et ne pas être capable d'expliquer à quelqu'un clairement ce que l'on fait est un souci, est un problème. Parce que normalement, on est capable d'expliquer ce que l'on fait. Il y a un exercice qui est très probant en psycho du travail, qui est d'expliquer à l'autre ce que l'on fait pour que l'autre nous remplace, en fait. Mmh. On imagine une situation que l'autre nous remplace. Et si on n'est pas capable d'expliquer ce que l'on fait, ça veut dire que quelqu'un, enfin, on ne peut pas être remplaçable, ce qui n'est pas possible au travail. On doit pouvoir être remplaçable.
Alors après, ça peut vouloir dire aussi que les organisations sont tellement complexes qu'il est difficile pour des personnes qui sont extérieures à l'organisation de comprendre le métier. Mais c'est
non, les mots sont simples. Je pense qu'on peut comprendre un métier si une personne est capable d'expliquer clairement. Je pense que c'est beaucoup plus abstrait, comme vous l'avez dit.
Mais c'est vrai que c'est assez probant quand on dit à quelqu'un qu'on est menuisier, tout le monde comprend.
Bien sûr,
mais quand
oui,
on dit je suis consultant, auditeur, machin, déjà ça devient
un peu plus
compliqué.
Alors tout le monde comprend, mais décrire une tâche, pas forcément. Menuisier, ça veut dire plein de choses.
Oui.
Ce qui est important, c'est de pouvoir décrire sa tâche. Et c'est cette description de la tâche qui génère le sens.
Qui fait qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait.
Bien sûr.
Alors, on va le voir, l'ennui peut aussi avoir des conséquences sur nos collègues. Et nous allons accueillir une autre auditrice, Poulot. Bonjour, Poulot.
Et bonjour, Charlie Dupuy.
Vous êtes à Dakar. Alors, on vous écoute. On écoute votre témoignage.
Oui, moi, je travaille dans un bureau où il y avait une collègue. On ne lui donnait pas de tâches à faire. Donc, elle était là, elle s'ennuie au bureau. En plus, elle m'a dérangée.
Alors, elle était secrétaire, hein, c'est ça, cette collègue?
Oui, elle était secrétaire, mais elle ne faisait rien. Donc, elle était là à raconter sa vie et me dérangeait au boulot. Et moi, je la comprenais parce que c'était pas facile aussi. Hein. C'était très dur pour elle. Parce qu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas de patron. Elle est là à tourner les pouces, à faire sa couture. Elle parlait du coq à l'âne, elle racontait plein de choses, quoi. Et moi, ça me dérangeait au travail.
Parce que vous, vous aviez des choses à faire. Hein.
Oui, j'avais des choses à faire. J'avais beaucoup de travail. Moi, parfois même, j'étais très énervée sur elle parce que moi, je disais, elle est méchante parce qu'elle me voit que j'ai du boulot. Elle me dérangeait. Elle parlait des choses qui ne m'intéressaient pas. Moi, parfois, je disais qu'elle est méchante, quoi. Mais après, je la comprenais, quoi. Parce que ça c'est très dur aussi. C'était tuer la personne.
Et comment ça se faisait qu'elle n'ait rien à faire comme ça? Vous avez une idée?
Oui, elle était un peu âgée aussi. Elle était complètement déphasée des nouvelles technologies. Parce que nous, on travaille sur l'ordinateur. Elle avait fait dactylo. Sur les machines, ces genres de machines n'existaient plus.
Oui, donc en fait, elle ne savait plus faire le poste pour lequel elle était employée.
Oui, c'est ça, parce que...
Ouais.
Et avec les nouvelles technologies,
Alors, vous avez un téléphone qui vibre à côté de vous. En tout cas, voilà, merci pour votre témoignage, Poulot, qui montre que l'ennui peut aussi perturber ses collègues. Comment vous réagissez, Christian Bourion?
C'est tout à fait juste. Hein. C'est quelque chose de tout à fait juste. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit avant, c'est qu'à mon avis, la complexité est liée au droit du travail. Je suis peut-être méchant, mais j'ai tendance à penser que le droit est en train de tuer l'économie. C'est-à-dire que plus vous cherchez à normaliser les processus, parce que derrière tout ça, il y a la peur qui monte dans nos nations. Et derrière la peur, il y a le besoin de sécurité. Et plus vous cherchez à normaliser... plus vous allez faire naître ces bullshit jobs, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les jobs à la con, c'est-à-dire c'est des travaux, il faut résoudre un petit problème, mais que demain, l'article de droit qui a été voté dans un moment de crise disparaisse, et vous avez les 2000 emplois qui vont disparaître avec. C'est une complexité qui est totalement artificielle.
Oui, c'est une complexité
Et qui rend incompréhensible, ça je maintiens ça n'est pas simple, qui rend incompréhensible certaines données du travail. Hein.
Alors, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi désacraliser le travail, dédramatiser son importance et se dire qu'on peut aussi s'accomplir, se réaliser ailleurs, en dehors du travail, dans les loisirs, auprès de sa famille, auprès de ses amis, Nathalie Pochia-Collin?
Bien sûr, je pense qu'on peut, mais la difficulté, c'est que l'impact d'une souffrance au travail s'externalise. Et quand on est très mal au travail, on a beaucoup moins d'énergie. Et vous avez entendu toutes ces personnes qui ont des symptômes divers et variés, physiologiques, psychologiques. Du coup, c'est très difficile de s'investir. Au contraire, toutes les personnes qui sont en souffrance au travail ont beaucoup de mal à être bien dans leur famille. Au début, ils en parlent, mais il y a aussi la honte peut-être d'en parler autour d'eux autrement. Ils en parlent à leur conjoint, mais leur conjoint ne comprend pas forcément. Moi, j'ai eu le cas d'une patiente dont le conjoint ne comprenait absolument pas. Il lui disait, bon, te plains pas, t'as un travail, c'est déjà bien.
Oui, on se sent incompris et bien ça sûr. Rejaillit évidemment sur bien la vie
sûr,
personnelle.
Bien sûr, donc incomprise, eh bien, elle continue et elle n'arrive pas du tout à investir. Avec sa fille, c'est très difficile d'investir. On ne peut pas être bien avec les autres si on est mal dans une situation personnelle qui devient envahissante.
Christian Bourion.
Oui, tout à fait. Non, j'ai rien à rajouter. Hein. C'est exactement la problématique.
Hein. Moi, je dirais qu'on peut effectivement tirer parti d'une situation qui peut être confortable, entre guillemets, sur le papier, hein, à condition que cette répétition, c'est le problème du burn-out, à mon avis, c'est aussi l'immense routine qui s'installe, avec, surtout quand on est tenu à des horaires, hein, c'est qu'on se lève au bout d'un moment, on ne sait plus trop pourquoi, pour aller gagner sa vie, certes, mais on passe ses journées à ne pas faire grand-chose ou à faire des tâches qui sont dénuées de sens. On peut vivre ça à condition d'avoir une perspective, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, y compris si c'est une perspective qui est à côté, si c'est un projet qui est un projet de vacances, si c'est un projet qui est un projet de création artistique quelconque. Dans la mesure où vous rattachez le fait que vous travaillez et que vous avez un sens à côté, vous travaillez pour gagner de l'argent, éventuellement cet argent vous sert à autre chose. Là, ça peut,
on peut s'accomplir
ça peut,
en dehors aussi du travail.
Dans la mesure où vous sortez de la routine et de la répétition.
Merci à vous, Alexis Botaya, Nathalie Prussia-Collin, Christian Bourion. Merci à toute l'équipe.
Merci
aussi à l'équipe de France Bleu à Nancy. Et merci à vous, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, nous reviendrons sur un parcours pour le moins étonnant, celui de Priscille Déborah. Handicapée, amputée après une tentative de suicide manquée, elle a repris goût à la vie. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Les plaisirs du journal.